Ses doigts se recroquevillent dans l'air et miment l'action décrite. Et ses lacérations imaginaires représentent tout à coup pour Michael la quintessence de la terreur. Wanda baisse ses mains. Moi, je la regardais en me disant que j'allais bien ressentir quelque chose, mais finalement, elle a une moue agacée. Pour m'aider un peu, j'ai lancé « Ça t'apprendra à me menacer » ou quelque chose du genre. Je pensais que c'est ça qu'il fallait dire, mais ça m'a pas aidé. Elle observe enfin l'enseignant et se penche vers lui. Et même s'il est assis à 2 mètres d'elle, il a l'impression que son visage est tout près du sien. En plus, c'est comme si j'étais pas là. Elle continue à graffiner le pneu qui lui écrasait le corps, comme si elle espérait le déchiqueter au complet. Ses ongles se cassaient, puis saignaient, mais elle n'arrêtait pas, puis elle poussait toujours des petits grognements en crachant du sang. Je suis retournée dans l'auto, comme je ressentais pas grand-chose, ça donnait rien d'éterniser ça. Puis ça a beau être un coin désert, un char pouvait passer n'importe quand. Fallait que j'en finisse au PC. J'ai reculé un peu, j'ai senti que je débarquais du corps, j'ai un peu tourné le volant, puis je me suis remise à avancer lentement. J'ai compris que je montais encore sur elle avec un pneu arrière, mais selon l'angle, un peu plus haut que le bas-ventre. Sûrement pas dans sa face, parce que j'ai entendu un long râle rauque, comme si elle voulait dégager quelque chose dans sa gorge. Je devais être sur sa poitrine. Non. Je me suis arrêtée, toujours en équilibre sur elle. Le râle devenait de plus en plus faible. Puis après une couple de secondes, j'ai senti que le char descendait de quelques centimètres d'un coup, avec un gros craquement, comme si la roue s'enfonçait dans un tas de branches mortes. OK, Wanda, là, c'est... » Michael recule sa chaise en ramenant ses cheveux vers l'arrière. « Ça va aller, j'en ai assez entendu. » Comme nous l'a donné à entendre cet extrait de son roman « L'autre reflet », Patrick Sénécal est particulièrement doué pour susciter des frissons d'horreur chez ses lecteurs. Que ce soit à travers les émotions vécues par ses personnages ou leur encore plus terrifiante absence d'émotions, il nous livre bien plus que la description de scènes sanglantes. Il nous les fait vivre. Dans son premier roman publié, « Vengeance », Patrick ne disposait pas encore du même arsenal d'outils littéraires pour nous torturer l'esprit. Mais bon, faut bien commencer quelque part.
Dans l'article que tu as partagé avec moi, où il est question de vengeance, il fait mention de 5 romans que tu as écrits. Donc, ça, Vengeance, tu l'as écrit quand tu avais 15 ans, ouais. Publié à 17 ans au cégep.
Ouais.
Et donc, avant d'avoir écrit ce projet-là à 15 ans, qui fait quand même 194 pages d'actylographie, tu avais déjà 5 projets complets, bouclés.
En fait, vraiment, je dis dans l'article qu'ils sont écrits ou que je veux les écrire.
Écrits, 5 écrits.
Oui, parce que le premier que j'ai écrit, c'est Vengeance.
OK.
Mais j'en ai écrit 3 ou 4 autres après. En 2 ans, j'en ai écrit 3 ou 4 à peu près. Qui sont dans le garde-robe chez nous, là. Mais j'ai publié celle-là parce que c'était mon premier. Puis les autres sont chez nous à dactylo, des feuilles. En plus, c'est des feuilles 8,5 par 11 que je coupais en deux pour qu'il y ait un format un peu plus livre. Et je mettais ça dans ma dactylo, évidemment. C'était une dactylo. Après ça, j'ai passé dactylo électrique. Ouhou, là, j'étais fier. La première page, je faisais le dessin moi-même. Ça, c'est pas moi qui ai fait le dessin, là, mais je faisais le dessin. Et en arrière, la première page, j'écrivais du même auteur. Je me prenais au sérieux en tabarnouche, là, tu sais, les livres parus. Et je me faisais un 4e de couverture avec un résumé.
Est-ce que tu veux nous en lire un bout de Vengeance? Est-ce que, en fait, d'abord, tu veux nous mettre un peu en contexte? Parce que là, l'extrait que tu m'avais ciblé commençait à la page 185.
Oui, ben là, de ce premier roman. En fait, c'est ça. C'est un roman que j'ai écrit à 15 ans, mais je l'ai publié. Publié, c'est un grand mot. J'ai publié au cégep. Quand je suis arrivé au cégep, j'ai su que le cégep était prêt à photocopier et relier une centaine, 50 ou 100 copies, je ne me rappelle plus, 115 copies, quelque chose de même. Et il était vendu dans la petite librairie du cégep, la coop, et aussi une ou deux librairies à Drummondville qui ont été assez fins parce que j'étais un auteur drummondvillois. Et je refusais tout. Ils m'ont dit, veux-tu... On va corriger les fautes, évidemment, mais est-ce que tu veux qu'on peut t'assigner quelqu'un qui va faire de la direction littéraire? Puis il commence à m'expliquer un peu c'était quoi, puis changer des mots, puis bon, la direction littéraire, on sait tout c'est quoi. Et là, moi, je voyais ça comme un affront. Je disais, non, j'étais en train de tout changer mon affaire, j'aime mieux qu'on le laisse comme ça. Ce qui montre à quel point j'étais naïf et assez prétentieux. Ce qu'on est souvent à cet âge-là quand on écrit, là, on est convaincu qu'on est en train de révolutionner le monde. Et évidemment que quand on lit ça aujourd'hui, ben c'est assez rigolo, merci. J'ai écrit ça en plus, je ne lisais, non, pas que de l'américain, mais j'en lisais beaucoup. Je lisais beaucoup de Stephen King, alors c'est écrit comme un roman américain, mais traduit en français de France. Mais avec des expressions québécoises. Alors, c'est un langage bâtard qui n'existe pas. En fait, personne ne parle comme ça. Et là, c'est un peu la fin que je vais vous lire. Alors, pour mettre en contexte, un gars, il s'appelle Harris. Il s'achète une maison qui s'avère être une maison hantée parce que son frère restait là avant, ce qu'il ne savait pas, ce qui est complètement absurde. Et lui et trois de ses amis ont fait comme de la magie noire. Puis, pour faire venir le diable, il a fallu qu'il tue ses trois compagnons et qu'ils enferment dans la maison. Et ces trois compagnons-là vont sortir à un moment donné en mort-vivant, sortent du placard où ils sont emmurés et courent après le gars, Harris, à la fin. Et Harris va arriver à la tombe de son frère, parce qu'il est mort, avec le livre, il y a le livre dans les mains, le livre où tous les secrets où son frère a vendu son âme au diable. Mais ce que les trois gars veulent, dans le fond, c'est se venger de Harris. Mais comme il est mort, ben il se venge de son frère. OK? Fait que là, il se sauve. Harris, il court, là, c'est la nuit, il court, puis les trois morts-vivants, ils courent après. Mais c'est pas des morts-vivants, là. Ils sont bien dynamiques. Puis ils parlent, puis tout. Bon. Alors. Harris courut, comme jamais il n'avait couru. Ça, c'est beaucoup, ça. À travers champ. Il avait pas mal d'avance sur ses poursuivants, mais il perdait des forces. Il le savait. Tandis que, trois petits points, l'horreur et la terreur lui bloquant la vue, mon Dieu, Harris courait à l'aveuglette. Soudain, après 15 minutes de course effrénée, on le sait qu'il court, hein? Harris trébucha violemment contre quelque chose dans le noir. Il s'étala sur le sol. Une douleur foudroyante à la jambe le fit hurler. Lentement, grimaçant de douleur, il se releva et regarda autour de lui. Il était dans le petit cimetière, et la chose contre laquelle il avait trébuché, c'était une pierre tombale, celle de Peter Harris, son frère. Les larmes aux yeux, Harris mit à hurler en pointant la pierre tombale. « Salaud! Sale enculé! Fumier de merde! » Et que j'aimais ça écrire ces mots-là. « Tout ça est de ta faute! C'est toi qu'ils veulent, pas moi! » Harris se mit à sangloter de rage, d'horreur et de désespoir. Au loin, les trois cadavres arrivaient. Soudain, une idée frappa Harris, une idée à laquelle il aurait dû penser plus tôt. Le bouquin. C'était un bouquin de l'enfer. Rien ne pouvait le détruire, sauf... En vitesse, Harris détacha sa grande poche de manteau et en sortit le bouquin. Il sortit son crucifix d'autre poche. Je me rappelle plus qu'est-ce que c'était qu'un crucifix dans les poches, mais en tout cas, les cadavres étaient proches. J'avais vu le film L'Exorciste aussi, il n'y a pas longtemps. « Vous voulez Peter? » hurla Harris. « Vous allez l'avoir! » Il mit le bouquin satanique sur le sol et mit le crucifix par-dessus le livre. Une épaisse fumée se forma. Lentement, le bouquin se réduisit en cendres dans un nuage de fumée sans flamme. Les trois cadavres s'arrêtèrent, surpris. Un éclat terrible de tonnerre retentit dans l'air. Un orage débuta. Soudain, un hurlement inhumain se fit entendre. Le sol, près de la pierre tombale de Peter, s'ouvrit et un cadavre en putréfaction avancée en sortit, en hurlant, tout en se dirigeant vers le bouquin maudit. Mais Harris se mit en travers son chemin. Il y eut un corps à corps entre Harris et le cadavre de Peter. « Le crucifix va se faire à Peter. Enlève cette ordure de crucifix de mon bouquin. »« Non !» hurla Harris en retenant de son mieux Peter qui se débattait comme un démon. La pluie commença à tomber. Peter se débattait en hurlant tandis que le bouquin se réduisait de plus en plus en cendres. Harris retenait Peter le mieux qu'il le pouvait, mais il devait tenir. Il devait. La moitié du bouquin était en cendres et continuait à se calciner. C'est à ce moment que les trois morts-vivants, qui jusque-là avaient assisté ahuris à ce corps à corps entre Peter et Harris, et les trois sont là, s'écrièrent « Peter! C'est Peter! » À ces mots, Peter s'arrêta net de se débattre. Il se retourna vers les trois morts-vivants et dans son visage en décomposition, on put y lire de l'horreur et de l'épouvante. Il les reconnaissait et il savait que l'heure de la vengeance avait sonné. En hurlant de triomphe, armes levées, les trois morts-vivants se jetèrent sur Peter. Ils roulèrent sur le sol dans un amas de chair en décomposition. Les lames se plantèrent dans les chairs. Le sang coulait, les cris fusaient, le bouquin se calcinait. Harris, horrifié, se mit à courir, voulant fuir loin, loin, loin. Il va aller loin. Les cris et les hurlements diminuaient derrière lui. Harris courait toujours. La tête lui tournait, le souffle lui manquait. Il trébucha et s'effondra. Haletant, ensanglanté, il tenta de se relever, mais la douleur était trop forte, la fatigue trop grande, et à bout de force, Harris perdit conscience. Ça, c'est la fin du chapitre.
Hein?
Et là.
Cavalcade de zombies, autocombustion de Bible, orage qui s'abat sur un cimetière maudit. Il n'y a pas à dire, le vocabulaire est là pour nous laisser deviner que Patrick deviendrait celui qu'on appellera un jour le maître québécois de l'horreur. Mais ces romans contiennent bien plus que des monstres cachés dans l'angle mort. Ils parlent surtout des monstres en nous.
Il y a souvent, au-delà de l'horreur et du fantastique, des thèmes sociaux abordés dans tes romans, des angles sur la famille, sur l'évolution du couple, sur la société de consommation, la consommation du web, plein de choses comme ça.
Oui, mais l'horreur, en fait, je ne sais pas si je suis un auteur d'horreur vraiment. J'ai des livres qui sont des romans d'horreur, mais qu'on me dise, depuis quelques années, qu'on me dise, Patrick Sénécal, qui est l'auteur d'horreur, je me dis, mais là, j'ai l'auteur d'horreur, ceux qui disent ça, ils n'ont pas tout lu ce que j'ai fait, parce qu'il y a des romans que. Le vide, pour moi, c'est pas un roman d'horreur. Fin, c'est pas un roman d'horreur. L'autre reflet, c'est pas un roman d'horreur. C'est des thrillers noirs. C'est très noir. Il y a des scènes très violentes, mais c'est pas parce qu'il y a des scènes violentes dans un roman que c'est de l'horreur. Mais c'est sûr que je parle de l'horreur humaine. Là. C'est peut-être dans ce sens-là. Mais quand on entend livre d'horreur ou film d'horreur, on voit souvent un psychopathe avec un masque tuer plein de monde. Puis bon, il me semble que oui, il y a des meurtres dans mes romans. Il y a du monde qui meurt, il y a des scènes violentes, mais dire que je ne fais que de l'horreur. En même temps, je sais que je ne fais pas des romans philosophiques. Là. Je ne veux pas non plus me donner ce que je n'ai pas. Mais moi, j'aime mieux dire que je fais du roman noir, avec des touches des fois d'horreur, d'autres fois du fantastique, d'autres fois du thriller, d'autres fois du polar, etc.
Mais Vengeance, tu l'avais quand même dédié à tous ceux qui aiment avoir peur.
Ah ben, Vengeance, c'était clairement un roman d'horreur. Ça, c'est sûr que quand j'étais jeune, en fait, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire de l'horreur et du fantastique. Je ne lisais que ça, alors c'était clairement ce que je visais. Puis c'est, bon, même les deux premiers romans que j'ai publiés pour vrai, 51-50, c'est un roman d'horreur jusqu'à un certain point. Le Passager aussi un peu, puis il y avait une influence Stephen King qui était très, très, très claire. Mais c'est en écrivant, en vieillissant, que je me suis mis un peu à dévier. Je pense que le premier roman, vraiment, qui avait une volonté d'être un peu plus que juste être bien violent, puis je pense que c'est Les Sept jours du Talion. Ou que même s'il était très noir, très violent, il y avait quand même, pour la première fois, de façon très claire, l'ambition de réfléchir sur quelque chose qui me tenait à cœur. Il y avait des choses quand même dans Alice, il y avait des choses dans... Mais c'était par la bande, beaucoup. Là... C'était de front, là. Qu'est-ce qu'on fait avec notre sentiment de vengeance? Qu'est-ce que l'être humain fait avec ce besoin-là de se venger? Comment dealer avec ça? Clairement, la question était là. Puis ça me faisait peur parce que, justement, j'avais peur de devenir un auteur qui se prend au sérieux. Puis ça, je trouve ça très triste. Il y a des auteurs de polar, des fois, qui commencent à se prendre au sérieux. Moi, quand j'avais lu Monsieur Malocène de Pennac, qui était son premier publié dans la collection blanche, là, en gros format, là, je trouvais qu'il se prenait ben trop au sérieux. Là, je trouvais que, OK, là, il s'est fait trop dire que c'est un auteur qui, en plus d'écrire des bons thrillers, des bons suspense, en plus, fait réfléchir. Ben là, il a décidé juste de faire réfléchir. Tous ses personnages parlaient comme des philosophes, puis là, il oubliait de nous raconter une bonne histoire. Il paraît qu'après, c'est revenu, il paraît qu'il a retrouvé un équilibre après, mais je ne l'ai pas lu le reste. Mais je pense qu'effectivement, c'est un danger de trop se prendre au sérieux quand, au fond, notre principale force, c'est d'écrire un bon thriller. Fait que les 7 jours au Stallion, je faisais attention de là, je suis en train de faire la morale, je suis en train de faire la leçon, je suis en train de juste de passer mes idées, ou j'oublie pas aussi de raconter une bonne histoire. Fait que pour moi, il y avait cet équilibre-là à trouver avec ce roman-là.
Mais avant d'écrire, est-ce que tu étais un raconteur d'histoire? Avant d'écrire Vengeance, est-ce que c'est un truc que tu faisais entre amis, d'échanger des histoires horribles?
Pas vraiment. Non, parce que j'écris... Bon, Vengeance, je l'ai écrit à 15 ans, mais j'écris des histoires depuis que j'ai 11-12 ans. Je veux dire, avant Vengeance, j'ai écrit une trentaine de nouvelles, là, entre 11 et 13 ans. Fait que chaque fois que j'avais des histoires à raconter, je les écrivais. Même à 9-10 ans, je faisais des bandes dessinées. Fait que le côté raconteur, mais à travers le papier, ça a toujours été là. Évidemment, oui, quand j'étais jeune, j'avais une grande gueule, comme aujourd'hui, puis j'aime ça compter des anecdotes, puis ça a toujours été là. Mais quand c'était le temps de mettre en forme une histoire, j'étais pas un conteur autour du feu, là. J'étais pas un conteur oral, là. Je comptais plein de jokes, tout ça, mais pas pour raconter une histoire. Ça, il fallait que ça passe par le papier, absolument.
Est-ce que tu suis encore tout ce que fait Stephen King?
Non.
Non?
Non, je me suis tanné de Stephen King. Mais là, je suis en train de lire. C'est drôle, en ce moment, je suis en train de lire son livre sur JFK.
Oui.
Parce qu'on m'a tellement dit que c'était bon. Et je trouve que le milieu, il est bien long. Je trouve ça bien, bien long, le milieu. Puis je trouve qu'il est naïf. Stephen King rêve d'une Amérique qui n'existe pas. Puis il pense qu'elle a déjà existé, puis elle n'a jamais existé. Son Amérique parfaite, là, son village des Schtroumpfs, là, ça n'existe pas, ça. Puis c'est trop le bien contre le mal tout le temps, là. T'as les gentils, puis t'as les méchants, méchants. Ça m'énerve. Mais quand il traite des scènes de violence, des scènes épeurantes, il est super bon. Mais quand il parle de l'être humain en général, quand il veut me montrer c'est qui les gentils, puis tout ça, ça n'a aucun sens. C'est Walt Disney, ça se peut pas du monde de même, du monde parfait comme ça, là. C'est trop simpliste. Ça m'énerve. Il paraît que la fin est bien bonne. Puis je suis quand même intrigué, là, parce que c'est un bon storyteller malgré tout, Stephen King. Mais maudit que son milieu, il est long, puis quel quart d'heure, quelle vision de l'Amérique complètement sublimée qui se peut pas, là, tu sais. Mais bon.
Mais il y a certaines de ces histoires, peut-être dans les premières, peut-être dans celles que tu as plus aimées, où il est un petit peu plus désincarné de l'Amérique, justement.
Absolument.
Tu m'as parlé d'une nouvelle, j'oublie le titre, où une femme se retrouve dans une cabane dans le bois.
C'est pas une nouvelle, c'est un roman.
C'est un roman.
Puis il est très bon, ce roman-là. Moi, c'est un des derniers très, très bons que j'ai lu de lui. Ça commence à dater, d'ailleurs. C'est une femme, ouais, elle a fait un jeu sexuel avec son chum, ils sont dans une cabane dans le bois, elle est attachée après des menottes. Puis il fait une crise cardiaque. Il s'en allait un peu trop loin, d'ailleurs, puis il donne un coup de pied. Il dit, voyons, là, wow, j'ai plus de fond de pantoute. Il fait une crise cardiaque, puis il meurt. Fait qu'elle est poignée dans le bois, attachée avec les menottes dans le bois. Déjà intéressant comme point de départ. Puis c'est une espèce de. Une introspection. Il y a quelque chose de très féministe dans ce livre-là, en plus. C'est bien intéressant.
Le titre du roman qui lui fuyait le bout de la langue et que vous aurez sans doute envie de lire en finissant cette balado, c'est Jesse, ou Gerald's Game en version originale. Vous pouvez vous fier à cette recommandation. Patrick est certainement un expert de l'œuvre de Stephen King, mais aussi en bon ex-prof de littérature de nombreux autres auteurs. Il nous a d'ailleurs confié venir de boucler sa lecture de Guerre et paix de Dostoïevski. Un brin longuet au milieu, apparemment. Bon, évidemment, ses influences principales sont ailleurs.
Tu l'as dit tantôt, ton personnage sacre en français international.
Oui.
Alors, tu dessinais un peu ce livre-là au marché. Après Drummondville, c'était la France.
Je visais rien, en fait. J'avais l'impression que du fantastique, ça s'écrivait comme ça. Mm. Pour moi, et pourtant, j'avais lu... Ben oui, c'est vrai. J'avais lu beaucoup de nouvelles belges. J'avais lu du Jean Rey, j'avais lu du Thomas Owen, qui sont des Belges, français, Claude Seignolle, bon, tout ça. Mais c'était quand même européen. Donc, pour moi... Ça n'avait pas de sens du fantastique en québécois. C'était très colonisé comme mentalité. Puis c'est un de mes amis qui était un ou deux ans plus vieux que moi qui m'a dit, vers cet âge-là, il m'a dit, « À un moment donné, tu vas écrire en québécois. Tu vas comprendre que ça n'a pas de sens d'écrire dans cette langue-là qui n'existe pas. » Puis je dis, « Ça se peut pas. » Puis je me rappelle, vers 19 ans, j'ai écrit un premier roman en utilisant la langue québécoise. Et là, j'allais dans l'excès. Là, je découvrais qu'on pouvait sacrer. Puis là, j'avais trop de fun. Là. Tout le monde sacrait tout le temps. C'était ridicule. Puis... Depuis ce temps-là, ben là, j'ai écrit en québécois. Mais c'était vraiment l'influence d'un gars qui pense que ce genre-là en québécois, c'est pas possible. Comme on a cru pendant longtemps que le rap en québécois, c'était pas possible, etc.
Et quand ça a été adapté, quand tes romans ont été adaptés pour le marché français, finalement, je pense que les premiers n'ont pas été modifiés du tout, finalement.
Il y en a un qu'on a publié en France, puis je voulais rien savoir de changer quoi que ce soit. Fait qu'on ont fait des notes en bas de page, qui est une très mauvaise idée. Parce que ça ralentit le rythme et tout ça. Après ça, il y a une ou deux autres maisons d'édition qui m'ont approché, mais encore là, je voulais rien changer. Et à un moment donné, je me suis dit, là, ce combat-là, je le mène pour qui, là? Je veux dire, qu'est-ce que ça donne si, sur mon lit de mort, avant de mourir, je dis, j'aurais jamais rien changé de mes romans, mais il n'y en a pas un qui va avoir été publié en France, par exemple. Alors, qui gagne quoi, au juste, là? Fait qu'avec Fleuve, quand Fleuve m'a approché, on a fait des petits changements dans le langage. Pas dans l'histoire, pas dans le... Ça, il n'y a rien de changé. Ça se passe encore au Québec. On reconnaît... Les anglicistes sont encore là. C'est surtout les jurons, les fameux jurons, les Chris et Tabarnak, qui ont toujours peur que ça fasse rire les Français. Puis ils disent là, s'ils se mettent à rire pendant un polar, Patrick, c'est pas bien bon. Tu vois, mais ils vont toujours rire si on les habitue pas à en lire.
Une des particularités des romans de Patrick est que l'on s'attache aux personnages qui commettent des actes horribles presque plus qu'à ceux qui sont victimes des mêmes actes. C'est comme une pente glissante sur laquelle l'on sent doucement perdre pied.
Tes personnages n'ont pas à être compréhensibles pour tout le monde.
Non.
N'ont pas à être... Non, on n'a pas à partager avec eux, à avoir une empathie pour leur choix.
Ben, c'est-à-dire que l'empathie, c'est une chose, la sympathie, c'en est une autre. Moi, qu'ils soient sympathiques ou non, ça m'est égal complètement. Mais je veux qu'on soit quand même empathique dans le sens que je veux qu'on s'intéresse à eux autres. Puis je pense qu'on peut quand même s'intéresser à quelqu'un, même s'il n'est pas si sympathique. Évidemment, si ton roman commence et ton personnage, dès le départ, c'est un violeur d'enfants, sans raison, ça va être un peu difficile de le suivre. Mais je pense que moi, ce que j'aime, c'est que le personnage va aller de plus en plus dans son côté sombre. Et si tu l'as suivi au début, ben il va être trop tard à page 200 ou 250 pour dire « Oh, là, je ne suis plus d'accord avec lui, fait que je ne m'y intéresse plus. » Ben non, il est trop tard. Si tu t'y es intéressé pendant 200 ou 250 pages, tu es pris avec. C'est un peu le syndrome Breaking Bad, en fait. Breaking Bad, c'est exactement ça qu'il a fait. Au début, il y avait une raison, c'était pour la famille. Mais plus ça va dans la série, moins on est d'accord avec lui. Mais on le suit pareil parce que là, on s'est attaché, entre guillemets, à lui. Je me rappelle que quand j'ai sorti Elle.com, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Il est vraiment pas sympathique, ton personnage. » Dès le départ, il est pas sympathique. C'est vrai qu'il est pas sympathique, mais on va le suivre quand même parce qu'il va dans Elle.com au début pour des raisons sexuelles. C'est le côté sexuel qui l'intéresse. Et ça, je savais qu'avec le côté sexuel, les gens auraient le goût de le suivre parce que le monde est voyeur, puis le monde a des fantasmes. Puis il fait des choses, dans le fond, tout le monde est consentant. Quand il se met après ça à être intéressé par la violence, là, on n'est plus d'accord avec lui. Là, il est trop tard. Mm. Ça fait 200 pages qu'on le suit. Fait que là, parce que si le monde aime ça, évidemment, mon pari, moi, c'est ça. C'est que même si je le rends malade, vous allez le suivre quand même. Ça c'est le pari que je me fais quand j'écris mes romans.
Un angle avec lequel aussi tu vas assez souvent chercher le viscéral des gens, c'est la paternité, jusqu'où on serait prêt à aller pour nos enfants. Quand tu parlais des 7 jours du talion, tantôt, c'est la vengeance par rapport à un enfant qui a été violé, ouais. Tué. Dans Elle.com aussi, à un moment donné, ça embarque la dimension de la relation père-fils, puis la violence a beaucoup rapport avec le fils. Dans Contre Dieu, bien sûr.
Ouais, ouais.
C'est ce qui fait en sorte qu'on peut comprendre le personnage. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé, j'imagine, dans ton écriture à partir du moment où tu es devenu père.
Ben oui, évidemment.
Ça a teinté.
Avant d'avoir des enfants, je pense qu'aucun de mes romans parlait de ça. 51-50, ben, il y a une famille, mais c'est une famille de fous. Donc, le thème de la paternité n'est pas vraiment... Il l'est un peu, mais c'est pas vraiment... c'est pas mes considérations à moi sur qu'est-ce que c'est qu'être père, puis c'est quoi notre responsabilité d'être père. Ça commençait avec les 7 jours du talion, quand j'ai eu ma fille. J'avais eu Nathan avant, mais quand t'as une fille, c'est pire. Dans le sens, pour un père, en tout cas, parce que là, tu te mets à t'inquiéter plus que quand t'as un gars. C'est bien cliché, je sais que c'est bien cliché, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la réalité. Je parle de ça avec tous les pères. Et tous les pères sont bien plus inquiets pour leur fille que pour leur fils. Mais c'est ça. Je me suis bien écrit là-dessus. Puis tous mes romans après, oui, il y avait une relation. Mon personnage principal avait une relation avec ses enfants qui était en général assez dévastatrice en plus. C'est très souvent un mauvais père parce que je me dirais que j'imagine ce que je pourrais être. J'envisage le pire peut-être pour l'éviter. Ça, c'est la théorie de ma blonde. Elle dit tu parles de tes peurs dans tes romans, consciemment ou pas. Tu parles de tes peurs, puis ça te donne l'illusion d'avoir un certain contrôle sur ces peurs-là. Parce qu'évidemment, c'est de l'illusion. Je veux dire, le contrôle qu'on a dans la vie, moi, je suis convaincu que c'est de l'illusion. Là. Ça, c'est le thème de mon prochain roman, en plus. Là. Je pense qu'on contrôle pas grand-chose dans la vie, mais on a l'illusion, on a besoin d'avoir cette illusion-là. Mais parler de mes peurs, parler d'un très mauvais père dans un livre, bien, ça me donne peut-être l'impression que bien, moi, je ne serais pas comme lui, parce que justement, j'y fais face. T'sais.
C'est peut-être pour ça que les gens ont l'impression que ce sont des romans d'horreur, au-delà du clown qui sort de la grille d'égout. Le fait qu'on est confronté au côté les plus sombres ou les plus grands extrêmes mauvais.
Si l'horreur, on le définit comme ça, c'est vrai que ça peut aller jusque-là. Mon roman Fin, quand j'ai écrit Fin d'ailleurs, qui parle beaucoup de réalité de gens qui sont rendus à 50 ans, puis qui ont une petite vie un peu plate, puis qui font tout la même affaire, puis qui se retrouvent à 50 ans, puis qui se disent Colin, j'ai bien plate ma vie, j'ai pas fait ce que je voulais, je suis pas devenu ce que j'ai voulu devenir, je suis pris dans des schèmes de société, bon, tout ça. Bien, c'est l'horreur du quotidien, dans le fond. Il y a quelque chose là-dedans. Bon, là, évidemment, ça va devenir sanglant, là. Ça devient toujours sanglant dans mes affaires. Mais ça parlait beaucoup de ça. Et je savais en l'écrivant que beaucoup de mes lecteurs plus jeunes, mes lecteurs, mettons, entre 15 et 25 ans, ce thème-là, ils me l'ont dit. D'ailleurs, ils ont dit, ben, fin, c'est un peu décevant. Il se passe pas grand-chose. C'est lent. Mais c'est très l'horreur. Alors qu'il y a beaucoup de mes lecteurs de 45, 50 ans, 55 ans qui m'ont dit, oh mon Dieu, ça m'a tellement bouleversé parce que ça m'a ramené à des affaires. Mm. Fait que oui, il y a une forme d'horreur là-dedans, effectivement. Pas juste dans les scènes violentes, mais dans le fait de te réveiller à 50 ans puis de dire, j'aime pas ma vie. Je mène pas la vie que j'ai voulu. Alors qu'à 17 ans, je me dis que je tomberai jamais dans le piège de mes parents. Et là, je suis en plein dedans. Ben oui, il y a quelque chose d'assez horrible là-dedans, effectivement.
Mais c'est beaucoup plus effrayant. On n'avait pas toute la mise en contexte là, avec l'extrait de vengeance que tu nous as lu. Mais les trois zombies qui courent derrière l'autre, qui disent « Ah, oh, mon Dieu, c'est Peter », puis qui courent après, qui font un amas de chair en putréfaction.
Oui, ils se battent en faisant un amas de chair en putréfaction.
Moi, ça me ferait moins faire des cauchemars que quand j'ai lu Contre Dieu, qui est l'histoire d'un père qui perd toute sa famille dans un accident tragique et qui ensuite perd l'idée du sens de la vie, qui ne voit plus pourquoi quoi que ce soit ferait sens, là, quelque chose que ce soit ferait sens. Moi, ça m'a fait faire des cauchemars pendant super longtemps.
Tu as raison. Quand on a 17 ans, en fait, l'horreur, c'est l'horreur graphique, c'est l'horreur, c'est des monstres et tout ça. Parce qu'il y a une empathie psychologique que tu n'as pas avant 22, 23 ans. Hein. C'est prouvé, ça, là, l'espèce d'empathie. Il y, il y a quelque chose que tu n'as pas développé encore quand tu as 16, 17, 18 ans, là, l'horreur psychologique, l'horreur subtile, tu n'es pas rendu là à comprendre ça. Puis moi, je me rappelle, quand j'ai vu le film Shining pour la première fois, j'avais 16 ans, 15 ans, et j'ai fait, ben voyons donc, c'est pas de l'horreur ça, il n'y a rien là, il n'y a presque pas de sang là-dedans. Et quand je l'ai revu des années plus tard, j'ai fait, crime, l'horreur de ce film-là, c'est le petit gars de 8, 9 ans, 10 ans, qui se sauve de son père dans un hôtel pris dans la neige parce que son père veut le tuer. Puis son père, il court après avec une hache, puis il veut le tuer, puis le petit gars, il est pogné dans la montagne. Qu'est-ce que tu peux avoir de plus horrible que ça? Mais là, j'étais en appétit avec le petit gars, là. Mm. Là, ça marchait. À 15 ans, moi, tout ce que j'espérais, c'est que le père le rattrape et qu'il plante la hache dans la tête. Alors que quand tu regardes ça à 30 ans, c'est exactement le contraire. Tu veux pas. C'est pas ça que tu veux, justement. Tu veux qu'il s'en sauve, tu veux qu'il s'en tire. Alors, il y a une vision qui n'est pas la même. Alors, moi, mes lecteurs qui ont trippé sur Elle.com à 16, 17 ans, parce qu'il y a bien du sang, quand ils ont lu faim, ben l'horreur de mes personnages à 50 ans, ça leur a passé 10 pieds par-dessus la tête. Puis c'est normal, là. Je ne l'en veux pas, là. C'est... Puis je suis content d'écrire. Je suis content de l'avoir fait quand même, ce roman-là, de ne pas me dire, ouais, mais là, il y a peut-être une partie de mon public que je vais. Je le savais, puis je l'ai fait pareil parce que j'avais besoin d'écrire. Puis ça, je pense qu'il faut toujours que ce soit ça qui nous guide.
Les peurs évoluent. La maison hantée qui nous faisait frémir à 9 ans nous fait glousser à 15. Et les films gore dont on se régale à 17 ans vont souvent faire sourciller une fois les premiers cheveux gris apparus. Pour faire peur, il faut savoir à qui on veut faire peur. Miser sur des bases communes. C'est comme avec l'humour, c'est comme avec l'érotisme aussi. Il faut trouver les cordes sensibles.
La nouvelle érotique dans Nu, avant d'être une nouvelle érotique, c'est une histoire humoristique avec un punch, avec bien du sexe, mais bien du sexe assez grand guignolesque, exagéré. Tu sais, j'ai comme mis toutes les possibilités de relations sexuelles qui existent, je les ai mis là-dedans. Même mon narrateur a mené, essaye un trip gay alors qu'il n'est pas pantoute. Fait que, tu sais, j'ai voulu vraiment dire, ah ouais, on va en beurrer épais, mais quand je me prends pas au sérieux, je pense que ça passe quand même, oui. Tu sais.
Puis il y a quand même une créature étrange et flasque qui se cache dans le noir,
oui,
finalement.
Oui, mais c'est bon.
Ouais, ça,
enfin, ouais. Bon. Enfin, c'est pas une vraie créature, là. C'est un inside, là. Il faut lire la nouvelle pour comprendre ce qu'elle veut dire. On le dira pas, sinon on dévoilerait le punch. Mais il n'y a pas d'horreur, il n'y a pas de fantastique, là. C'est pas ça. Ben, en tout cas. Mais, alors oui, c'est le storytelling qui l'emportait. Moi, juste écrire une histoire pour décrire une base, même si c'est super bien écrit, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de le lire, puis ça m'intéresse pas de l'écrire, même si je respecte ce genre-là. Alors moi, j'ai besoin de raconter une histoire. Puis ben la nouvelle, quand Stéphane m'a demandé de faire la nouvelle érotique, j'ai hésité parce que je sais pas si je vais être capable de faire ça. Mais là, j'ai dit, bon, OK, je vais m'amuser. Et pourtant, il y en a du sexe dans mes romans, là. Il y a souvent du sexe dans mes romans, mais c'est du sexe qui sert toujours à quelque chose. Puis moi, en général, lire un roman dans lequel le gars et la fille, pour montrer qu'ils s'aiment, qu'ils sont en... On va avoir trois pages de base, d'une bonne base, juste pour montrer qu'ils ont du fun, puis pour montrer que l'auteur écrit bien. Moi, ça m'énerve. Moi, ça m'ennuie profondément, ces scènes-là. À moins que dans la scène de base, il se passe quelque chose qui vient démontrer quelque chose. Sinon, moi, ça m'ennuie. Mais je suis pas en train de dire que ceux qui font ça ont tort. C'est très, très personnel.
Est-ce que t'arrives de lire des romans puis de dire, ah, ça, ça me fait décrocher, justement. Pas
ben
des
oui. Ben moi, je suis tellement... Moi, je suis chialeux, là. Ceux qui me connaissent, vous le savez, là. Je regarde une série, puis je vois plein d'affaires qui me tapent ses nerfs. Je suis bien, bien difficile sur la cohérence, puis la logique des choses. Puis on me dit, ouais, mais c'est de l'horreur, c'est du fantastique, Patrick. Oui, mais justement, si on veut y croire, plus ça va être réaliste dans le contexte, plus la vie normale, on va y croire, plus que l'apparition de l'horreur ou de la peur ou du fantastique va nous troubler, parce que justement, ça va être vraiment un élément qui va venir briser la réalité. Si tu fais un monde déjà farfelu, qui ne tient pas tellement debout, qui n'est pas tellement logique, bien, l'irrationnel, quand il va arriver, on va s'en foutre. À moins de faire quelque chose, que tu donnes le ton dès le début, qu'on ne veut pas trop que ce soit réaliste. Quand j'ai fait Malface, ma série Malface, là, il y avait un contrat dès les premières pages avec le lecteur que, regarde, là, on va tourner les coins ronds, là, on est dans l'absurde un peu, Puis ça, je pense, ça s'établit dans les premières pages. Moi, j'appelle ça le contrat avec le lecteur, là. Dès les premières pages, il faut que tu signes un contrat avec ton lecteur pour lui dire, voici le mode dans lequel tu dois lire ça et que je l'ai écrit. T'es-tu d'accord avec ça? T'embarques-tu dans ce mode-là? Puis si c'est pas clair dès les premières pages, ben tu vas le perdre, ton lecteur. Puis ça, je pense qu'il faut l'établir rapidement au début, puis c'est pas toujours évident.
Et quand on est Patrick Sénécal, quand on peut passer une semaine tout seul dans un chalet dans le bois, enfermé avec des meurtriers psychotiques, bon, qu'on est en train d'inventer, mais qu'est-ce que ça prend pour nous faire peur?
Ah oui, j'ai vu un film américain qui s'appelle « The Eyes of My Mother ». Ça se trouve, je pense, sur Netflix. Je ne devrais pas parler de Netflix, mais en tout cas. C'est un film en noir et blanc qui dure 1h20, qui n'a presque pas de dialogue. C'est une petite fille que sa mère, un inconnu qui arrive dans la maison au début et qui tue sa mère. Et elle va vivre avec son père qui est devenu fou à cause de ça. Et on va la voir vieillir dans cette maison-là, isolée. C'est extrêmement malsain. C'est malsain, là, comme ça fait longtemps que j'ai pas vu un film malsain. Et ça, moi, c'est ça que j'aime, là. C'est malaisant. Tu regardes ça, tu te sens pas bien. Il y a presque pas de dialogue. Il y a pas beaucoup d'histoire. Il y a pas de morale. Il y a pas de... Le dénouement, à la fin, tu fais « OK ». C'est juste une ambiance malsaine. Mais ça, je trouve qu'il faut être courageux de faire des films de même parce que c'est pas des films qui sont appelés à avoir des grands succès, là. Mais c'est très, très... Ouais, ça, j'avoue que c'est le dernier qui m'a mis dans un état. J'aurais aimé ça avoir fait ça, là. J'aurais aimé ça.
Si on parle de classique, toi, est-ce que tu lisais à tes enfants la version « La petite sirène » où elle se transforme en écume dans la fin » ou « La petite sirène quand elle se marie avec le prince Éric »
J'ai jamais lu « La petite sirène » à mes enfants.
Non? Qu'est-ce que tu lisais à tes enfants?
On inventait beaucoup d'histoires, en fait. Ils aimaient ça qu'on leur invente, moi puis leur mère, on inventait des histoires avant de se coucher. Puis je me rappelle, ils nous demandaient toujours, surtout mon fils, ils disaient raconte-nous une histoire. Il faut qu'il y ait des amoureux puis un méchant. Il demandait toujours ça. Il voulait qu'il y ait des amoureux puis un méchant. Des classiques, hein? On s'en sort pas. C'est dans l'ADN des gens, faut croire, là. Puis on en inventait. De temps en temps, on en lisait, mais il aimait beaucoup qu'on en invente. Mais moi, j'aurais lu, oui, je pense que j'ai déjà lu Le Petit Chaperon Rouge, puis j'avais lu la version qu'elle se fait manger par le loup à la fin.
Puis il faut ouvrir le ventre du loup, le chasseur de
la Non, ça n'existe pas, ça.
Non?
Non, ça c'est pas... Non.
Elle fait juste se faire manger.
Oui, dans la version de Perrault, elle s'est bouffée, puis that's it.
Le chasseur de barque.
Non, ça c'est tout le après qu'on a inventé ça pour rassurer. Parce que c'est vrai que Le Petit Chaperon Rouge, puis je l'ai étudié à l'université, c'est un conte qui rentre pas du tout dans la norme des contes. Pas du tout. Parce que normalement, un conte, t'as au début une situation qui a un déséquilibre et il y a un personnage qui va venir arranger ce déséquilibre-là, qui va venir rétablir l'ordre. Le Chaperon Rouge, il n'y a pas de déséquilibre. C'est le plus populaire de tous les contes, peut-être parce que justement, il ne suit pas toute la norme. Puis bon, évidemment, il y a eu plein de psychanalyses là-dessus, que c'est la puberté d'une petite fille, c'est pour ça qu'elle a un chaperon rouge, les menstruations, le loup qui représente, dans le fond, l'homme qui l'amène dans le monde adulte. Le fait qu'elle mange le chaperon rouge, c'est pas nécessairement négatif, c'est juste que l'enfance est terminée, puis elle l'a amené dans le monde des adultes. Et il y a eu un excellent film, d'ailleurs, qui reprend cette lecture psychanalytique-là du Chaperon Rouge, qui s'appelle... comment ça s'appelle, donc? Wolf... Ah, calme, je m'en rappelle. C'est un film de Neil Jordan des années 80.
Le titre que Patrick cherche, c'est La Compagnie des loups, The Company of Wolves.
C'est un super bon film qui montre justement, en fait, le loup, c'est un homme, mais il se transforme en loup-garou.
Mm-hmm.
Ce qui est intéressant, le chaperon rouge là-dedans, elle a 17 ans, 16 ans, 15 ans, quelque chose de même. Et lui, ben, il accrose et tout ça. Puis dans la maison de la grand-mère, à la fin, quand il est excité par elle, il devient un loup-garou. Et la petite fille aussi devient loup-garou. Ils se sauvent tous les deux ensemble.
Ooh.
Et le père vient poursuivre le loup-garou, le père de la petite fille. Puis la mère a dit non. Puis la mère comprend que c'est sa fille qui est devenue une adulte. C'est super bon. C'est super bon. C'est un très, très bon film.
Trop intéressant.
Ouais. Faudrait que je me rappelle du titre, par exemple, là, mais bon.
T'as fait des contes pour enfants aussi. T'avais pas écrit Le Bonhomme 7 heures.
J'ai écrit deux romans courts pour enfants. Le 7 comme 7 heures et Madame Moinam. Merci. Ça rappelle plus que moi. Et Madame Moinam. Ouais. Je les ai écrits pour mes enfants, en fait. Je les ai écrits quand ils étaient jeunes, puis ça les met en vedette carrément aussi.
Ah oui?
Oui, oui, oui. C'est Nat et Rome, là.
Est-ce que c'est les premiers livres de toi qu'ils ont eu le droit de lire?
Ben oui. En fait, je les ai écrits pour ça. Mon fils voulait lire mes romans. J'ai dit non. Il avait 8 ans. Je dis, il n'y en a pas question. Puis ça, c'est le fun. C'est l'âge qui t'écoute encore, là. C'est l'âge que tu leur dis non. Ils vont dire OK. À un moment donné, c'est plus ça avant tout. Mais donc, j'ai dit, voilà, faudrait bien. Puis c'est mon fils qui me dit, écris donc un roman pour nous autres. Ton enfant te demande ça. Tu peux pas dire non à ça. Là, j'ai dit OK. J'ai dit ça à ma blonde. Moi, écris un roman pour les enfants. Puis ça va les mettre en vedette. Elle a broyé pendant 3 jours. Elle était tellement contente. Fait que je suis content d'avoir fait ça. J'aurais légué autre chose que juste de la noirceur et tout ça. Plus souvent, il y en a qui me demandent, je vais dans les écoles primaires des fois, puis ils veulent une suite. Mais j'ai plus ma motivation pour faire la suite. C'était mes enfants.
Ouais.
C'est vraiment pour ça que je l'ai fait. Quoique, quand je vais dans les écoles primaires, puis les petits bouts de choux me disent, oh, on veut une suite. C'est bien fatigant aussi. C'est bien cute là, d'y voir tout enthousiaste. Là. Peut-être un moment donné.
Peut-être quand tu vas avoir des petits-enfants.
Faut que j'aie l'idée. Ah, peut-être quand je vais avoir des petits-enfants. C'est vrai. Pas pressé, là, mais... Colin, non.
Quand il avait rencontré le journal local à l'occasion de la parution de Vengeance auprès de l'Université du Collège, Patrick Sénécal avait déclaré vouloir devenir écrivain.
33 ans, 18 romans et un godzillion de cris de terreur engendrés plus tard, je pense qu'on peut affirmer que c'est mission accomplie. C'est bête, j'ai pas pensé à lui demander s'il y avait un pacte avec le diable derrière tout ça. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous avez entendu un extrait de « Vengeance », première œuvre publiée de Patrick Sénécal. Pour en savoir plus sur les textes de Patrick Sénécal publiés aux éditions Québec-Amérique, consultez les fiches des collectifs « Nu » et « Des nouvelles du père » sur le site web de Québec-Amérique. À la production et à la technique, mon collègue Philippe Collard. À l'animation, Myriam Caron-Belzile. Le thème musical de l'émission est l'œuvre de Adriana Crickle. Et l'autre pièce que vous avez entendue pendant la lecture est une composition de Bruce Lankey. Faut bien commencer quelque part est une production des éditions Québec-Amérique et est enregistrée devant public dans notre café littéraire, chez l'éditeur, situé sur la rue Saint-Hubert à Montréal. Si vous aimez ce que vous entendez, laissez-nous un commentaire sur iTunes. Consultez la page du café sur Facebook pour connaître la date de captation et le thème de notre prochain épisode.
Salut, je m'appelle Nathaniel. Je viens vous présenter un café qui s'appelle Chez l'éditeur. C'est un endroit où on peut prendre un café, un chocolat chaud, une soupe. Mais bah, moi, j'aime mieux les biscuits et les chaussons aux pommes. C'est un endroit où on peut regarder et même acheter des livres. On peut même croiser des écrivains et des éditeurs. On peut aussi assister à des ateliers, des conférences et même des rencontres avec les auteurs. L'adresse est le 7240 rue Saint-Hubert à Montréal et les heures d'ouverture sont dès 7h la semaine et fin de semaine. Merci de m'avoir écouté. Bye!